carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Jean-Marie Roire.
Bonjour.
À Paris cet automne, l'exposition du Grand Palais s'attache aux 30 dernières années de l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir, c'est-à-dire les années 1892, 1919, 1919 étant sa mort, et puis juste un petit rappel, il est né en 1841, comme Berthe Morisot d'ailleurs, je crois. Alors, les œuvres de ces années-là sont moins célèbres, moins connues que celles de la période impressionniste, et en fait, il fallait réparer cette injustice. Et pourquoi alors démarrer en 1892? Parce que, en fait, l'État, pour la première fois, lui a acheté un tableau. Et c'est un tableau qui vous dira quelque chose, puisque ce sont les jeunes filles au piano. On en parlera tout à l'heure. De manière générale, depuis quelques années, l'histoire de l'art essaye de décrire quelles furent les perspectives des peintres impressionnistes après les années de combat pour qu'ils s'imposent, c'est-à-dire les années 1870-1880, et pour pouvoir affirmer leur génie. Et puis après, quand ils sont mieux reconnus, qu'ont-ils fait? Alors, ce travail a déjà été réalisé pour Claude Monet et pour Paul Cézanne. Et il était temps d'évoquer Renoir, c'est Renoir au XXe siècle. C'est le titre officiel de l'exposition. Et dans cette exposition, on voit des paysages, des nus, des sculptures et surtout des portraits, puisque Renoir lui-même disait « Je suis un peintre de figures ». Et parmi les premières toiles exposées, ce sont les figures de jeunes filles de bonne famille, de très bonne famille, de votre bonne famille, Jean-Marie Roire. Ce sont des jeunes filles que l'on peut admirer et vous aviez confessé dans un de vos livres, je vous cite, « Ce monde de la peinture, j'ai eu beau tenter de le fuir, tout m'y ramenait. » Et nous y voici encore. Nous voici encore au cœur de cette mythologie familiale avec l'agence Manet, Morisot, Rouard et avec tous les amis artistes. C'est un véritable tourbillon impressionniste avec les amis de la famille et en particulier Renoir. Vous qui avez dormi dans le lit de Renoir au Ménil chez Julie Manet, dites-nous comment ils se sont connus, quelle fut l'importance de ces amitiés si fortes.
Alors j'ai évoqué ce milieu de l'impressionnisme dans mon livre « Une jeunesse à l'ombre de la lumière » parce que c'est vrai que cette rencontre avec les peintres de l'impressionnisme avait lieu de plusieurs manières. Il y avait Degas, qui était le meilleur ami de mon arrière-grand-père, et il y avait également Renoir. Alors, ce qui est complexe, évidemment, c'est que, en réalité, Renoir a été l'ami d'Henri Roire, qui lui avait acheté plusieurs tableaux, notamment la Dame en bleu, et le grand tableau qui s'appelle... le bois de Boulogne, où on voit une dame à cheval avec son fils.
Oui, ça, c'était dans les années 70-70.
Oui, c'est assez tôt.
Assez tôt, oui.
Et Renoir était également l'ami de mon autre arrière-grand-père, qui était Henri Lerol, dont il a fait le portrait. Mais il a surtout été attiré par ses filles, et il a fait notamment 5 portraits de ma grand-mère. Il a fait son portrait au piano avec sa sœur. Et il a fait plusieurs portraits qui ont été reproduits, enfin qui sont assez connus. Donc je crois qu'il aimait ces jeunes filles, je ne sais pas si c'était de bonne famille, mais c'est vrai qu'il aimait ce milieu raffiné, à la fois musicien, artistique.
Littéraire aussi, puisque Paul Valéry était...
Littéraire, mais enfin, ce qui concerne Henri Lerolle, c'était le monde de la musique, puisque oui. Henri Lerolle était le beau-frère d'Ernest Chausson. Et très lié à Debussy, c'était donc, il y avait chez Renoir une grande attirance pour ce raffinement de cette bourgeoisie artistique qui rappelait un peu l'aristocratie du XVIIIe siècle. Parce que, comme vous le savez, Renoir n'aimait pas beaucoup la bourgeoisie, le bourgeois un peu obtus, qui ne s'intéresse pas à l'art, mais là, il était dans une grande bourgeoisie extraordinairement ouverte à l'art, puisque... Mon arrière-grand-père Henri Lerolle peignait, il était même un peintre assez, assez connue. Et donc, il y avait des liens qui étaient extrêmement étroits, puisque les filles, donc les jeunes filles au piano, ont épousé les enfants de son autre ami Henri Roir. Donc, les deux fils Henri Roir
ont épousé... Alors, c'était Christine.
Christine.
C'était votre grand-mère ou...
C'était, non. Christine était ma grand-mère. Voilà. Oui. Et sa sœur, Yvonne, voilà, qui ont épousé mon grand-père Louis et l'autre, mon grand-oncle Eugène.
Et les jeunes filles, excusez-moi, les jeunes filles qui lisent un livre sont aussi elles deux ou ce sont encore...
Ce sont
les mêmes.
Il y a également Christine, leur rôle brodant. Oui. Et où on voit dans le fond, on voit Henri Roir d'ailleurs dans une exposition de tableau, on voit dans ce portrait. Et... Évidemment, les liens étaient extrêmement forts et ils se sont accrus parce que un autre fils d'Henri Roir va épouser Julie Manet, qui est la fille de Berthe Morisot.
Oui. Et c'est Ernest Roir.
Ernest Roir, qui est la fille de Berthe Morisot, et donc comme Berthe Morisot a épousé le frère de Manet, c'est la nièce de Manet. Oui. Et Julie a été au moment où elle a perdu son père. Berthe Morisot avait souhaité que ce soit Renoir, c'est-à-dire les liens très très proches qui existaient entre Renoir et Berthe Morisot. Elle a souhaité que, à la mort de son père, ce soit Mallarmé qui soit le tuteur de Julie, et que ce soit Renoir, s'il venait à décéder, qui soit son tuteur. C'est ce qui est arrivé, hélas, parce que vous savez que Berthe Morisot est morte très jeune. Julie n'avait que 17 ans.
Oui.
Donc elle était mineure. Et donc c'est Renoir qui a été le tuteur, l'un des tuteurs de Julie. Alors, bien entendu, comme moi, j'ai très bien connu Julie Manet, qui avait épousé un roi, et donc j'étais toujours chez elle, puisque c'était des cousins très proches. Évidemment, sur les murs, il y avait tous ses portraits. Il y avait notamment son très fameux portrait de Julie au chat, où elle ressemble à vraiment un chat. D'ailleurs, j'ai raconté dans mon livre « Une jeunesse à l'ombre de la lumière », l'extraordinaire, en vieillissant, elle avait pris ce côté avec ses yeux un peu... bridé, on ressemblait vraiment à un chat. Et donc, il y avait ces plusieurs tableaux d'elle, il y avait ce portrait, il y avait également un portrait avec sa mère, et il y avait un autre portrait avec ses cheveux longs, Julie Rêveuse, qui est un magnifique portrait. Donc, cette atmosphère, si vous voulez, de proximité de Renoir, moi, j'ai entendu très souvent ma tante me parler de Renoir et de son extraordinaire pudeur vis-à-vis de sa famille. En fait, il y avait les impressionnistes, en tout cas de ma famille, ont connu Renoir, mais ne savaient pas qu'il était marié. Parce qu'en fait, il avait épousé une femme qui était d'un milieu social très différent. Et il a avoué que, très tardivement, quand il a eu deux enfants, je crois, ce mariage. Et il avait peur qu'au fond, qu'il y ait une sorte de... que sa femme se sente mal à l'aise dans ce milieu qui est un peu différent.
Oui.
Et puis, elle a été tout à fait adoptée. Enfin, ça a été une... Mais c'est très curieux, le personnage de Renoir, et c'est très bien traduit dans les films de son fils, Jean Renoir.
Oui, que vous avez connu, parce que les enfants jouaient entre eux. Vous jouiez avec les enfants, avec Jean Renoir.
Non, mais vous savez, ce n'est pas ma génération.
Je sais bien, mais les générations se suivent.
Quand j'ai connu Jean Renoir, il avait 80 ans, et moi j'en avais 22. Donc les liens étaient de la génération précédente, c'est-à-dire que c'était Julie avait, tout au long de sa vie, avait été une amie très proche de Jean Renoir. Et donc, le Jean Renoir était en plus particulièrement aimé dans la famille parce qu'il y avait ce côté... C'est un homme extraordinairement généreux, extraordinairement humain. C'est-à-dire qu'il y avait une humanité chez lui et un sens artistique qui faisait que, quand on le voyait, vraiment, on était très impressionné. Je me souviens de cette rencontre que j'ai... faite avec lui, quand j'avais 22 ans, on a déjeuné, nous avons beaucoup parlé, je lui ai parlé de ses films. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça apparaît aussi dans son livre qu'il a écrit sur son père, c'est qu'en fait, Renoir était à la fois fasciné par l'aristocratie, c'était un peu comme Proust, et il adorait le peuple dont il était issu, et dont sa femme était issue, mais en même temps, il n'aimait pas beaucoup la bourgeoisie. Et ça se retrouve, cette philosophie, pourrait-on dire, du père Renoir, d'Auguste Renoir, se retrouve dans les œuvres de Jean Renoir, dans ses films. Il y a le même, on sent une sorte de décalque extraordinaire de conception de la société. Et c'est la façon, curieusement, la façon pour Jean Renoir d'être fidèle à son père.
Oui.
Parce qu'on pourrait dire qu'il a choisi une voie complètement différente, même s'il y a une influence, on le voit bien dans son... Dans les photos,
dans les
paysages.
Dans les scintillements, parfois,
dans
les feuillages,
dans les rivières. On sent la présence de l'impressionnisme.
Oui.
Mais, bien entendu, il a choisi un art complètement différent. En revanche, les thèmes sont très proches. Et il y avait aussi, il avait gardé cette tradition de bonhomie, cette tradition, vous savez, vraiment assez populaire. C'est un homme qui n'aimait pas tout ce qui était guindé, tout ce
oui.
qui était... Il y avait quelque chose chez lui de... Il est très attiré par le, je crois, le naturel du peuple.
Voilà. Oui, en fait, il était loin du snobisme mondain. Et vous dites à un moment donné, dans votre livre, qu'il était l'homme de la simplicité, de la nature, et presque un peu sauvage. Il était un peu sauvage, un peu misanthrope, pour certains éléments de la bourgeoisie, en tout cas.
Oui, il était peut-être moins que Degas. Mais Degas avait aimé, d'une certaine façon, la bonne société, il aimait y briller, enfin, pendant toute une période de sa vie. Après, il s'est devenu vraiment un sauvage, un misanthrope. Mais pour ce qui est de Renoir, je crois que, vous savez, tout artiste est un peu un sauvage. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire quelques concessions avec la société, surtout que lui avait une famille pas nombreuse, mais enfin, il avait quand même 3 enfants.
Oui, 3 garçons.
Et donc, il était obligé d'avoir une vie de société. Mais le fond de sa vie, c'était la consacrer à la peinture. Donc forcément, c'était un homme en retrait. Et il vivait avec beaucoup de modèles qui étaient là. Et d'ailleurs, j'ai connu un modèle de Renoir qui continuait dans ma famille, qui était couturière, qui s'appelait Georgette Pigeot. Et elle racontait, je me souviens quand elle venait faire de la couture chez ma tante ou chez ma mère, elle racontait toutes les séances de pose avec Renoir, son côté quelquefois un petit peu gaulois, ses plaisanteries qu'il faisait avec ses modèles. Mais cette extraordinaire séduction qu'il exerçait sur tous les gens qui l'entouraient, c'était un homme vraiment un amoureux de la vie. Il y avait à la fois à travers la peinture, et ça se sent dans sa peinture, c'est un formidable amour de la vie et un amour de l'art.
Un amour des belles choses, puisqu'il veut toujours que ce soit joyeux ce qu'il présente. C'est pour ça qu'il aime tant tous les portraits d'enfants. Est-ce que ça ne serait pas le lien qu'il avait aussi avec Berthe Morisot, aimait tant faire des portraits d'enfants?
Oui, je pense qu'ils étaient... Berthe Morisot a eu donc une fille, elle adorait, elle a fait beaucoup de portraits d'elle. Mais je pense que le lien était au-delà, je pense que le lien était de deux grands artistes qui s'appréciaient, qui étaient très proches. Et il communiait dans la religion de l'art. Vous savez, moi, c'est ce qui m'a frappé à travers ce qu'on m'a pu me raconter, c'est à la fois mon grand-père ou ma tante Julie, c'était cette passion commune qui faisait que, finalement, les différences sociales, le fossé entre...
Oui,
importait peu, et que même s'il y a eu peut-être au moment de l'affaire Dreyfus quelques petites divergences, au fond, c'était des gens qui s'aimaient et qui s'aimait à travers la peinture, qui avait cette passion pour la peinture, cette passion qui était en même temps une élévation. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était qu'ils aimaient l'élévation en peinture, mais aussi en poésie, puisque Mallarmé était extrêmement lié.
Oui.
Il y a la photo où on voit Mallarmé et Renoir prises par Degas, a été prise chez ma tante Julie. On les voit, c'est quand même une photo extraordinaire. De
oui.
voir ces génies
rassemblés
et pris en photo par oui. Degas. Mais tous ces hommes avaient une extraordinaire attirance, que ce soit vers la musique, pour les grands compositeurs contemporains, pour Chausson, pour Debussy, mais également pour Mallarmé, qui était au cœur de cette constellation. Bon. Ils avaient tous une compréhension. Il y avait... Je crois qu'il y a eu un phénomène qui s'est peu reproduit, enfin qui a pu se reproduire à une époque avec le surréalisme et dans des conditions complètement différentes. Une période vraiment où les artistes, dans des domaines très différents, ont pu communier dans la même passion de l'art.
Période absolument bénie, parce que effectivement, c'était juste avant la guerre de 14, il y avait cette période d'échange qui sortait effectivement des histoires habituelles. Mais alors, pour en venir à votre livre, Une jeunesse à l'ombre de la lumière, vous dites que vous avez, là je fais une petite parenthèse, un grand-père qui aurait voulu être un écrivain et qui ne pouvait pas y arriver. Mais donc, vous avez une vingtaine de génies dans votre famille, mais ce sont plutôt des peintres, et vous, comme écrivain, vous êtes le seul.
Enfin, il y a quand même Paul Valéry qui...
Oui, mais c'est un apparenté.
C'est un apparenté, oui, bien sûr, mais enfin, il était quand même très, très lié à cette famille. Donc, il y avait lui, il y avait Eugène Roire qui a écrit quelques livres et qui était extrêmement ami de Gide, une grande amitié pour Gide, et son livre La Villa 100 mètres a été l'esquisse de l'immoraliste, Gide l'a reconnu. Donc il y avait aussi la littérature qui jouait un très grand rôle, parce que vraiment c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui où on a des spécialités à ce moment-là.
Oui. Je veux dire, la culture était universelle.
Et en effet, ce grand-père dont je parle, Louis Roy, rêvait certainement d'une carrière littéraire. Il a écrit beaucoup d'articles dans la revue Marge, qui a été l'ancêtre de la NRF. Mais en même temps, il a été éditeur et il a créé les éditions de l'Art catholique, où il a été le premier éditeur de Maritain. Donc, il a été l'éditeur du Chemin de Croix de Paul Claudel. Donc, vous voyez, il était quand même, je veux dire, c'était quelqu'un qui est resté dans le monde de la littérature, même s'il n'a pas écrit. Mais c'est sûr que, disons, c'est la littérature est ce qui m'a permis, moi, d'échapper à cette fatalité de la peinture, puisque j'avais ces deux arrière-grands-pères, Henri Roire, qui était peintre, Henri Lerolle, qui était peintre. Ensuite, il y avait Julie Manet, qui était peintre. Son mari, Ernest, avait été l'élève de Degas, il était peintre. Ensuite, mon père était peintre, Augustin. Donc, ça faisait beaucoup de peintres, et les conversations étaient consacrées quasiment uniquement, de façon maniaque, à la peinture. Donc, on ne parlait que des peintres, pas seulement les peintres de la famille, mais on parlait de Poussin, de Michel-Ange.
Velázquez.
Voilà. Non, il y avait une sorte de folie de la peinture, ce qui a fait que moi, j'ai apprécié énormément ces conversations avec mon grand-père, qui avait très bien connu Degas, avec ma tante Julie, qui avait tous connu également. Si vous voulez, ça m'a apporté énormément. Ça m'a donné une exigence, si vous voulez, de vouloir rester dans ce monde magique de l'art. Voilà, dans ce monde merveilleux de l'art. Mais en même temps, je crois que je voulais essayer d'apporter ma pierre d'une façon différente. Je ne veux pas me comparer à Jean Renoir. Je n'ai pas son talent. Mais disons, de la même façon que Jean Renoir, qui voulait échapper à l'emprise de la peinture par le cinéma, moi, j'ai essayé à ma manière, avec mes moyens modestes, qui ne sont pas, hélas, pas ceux de Jean Renoir, d'être un écrivain qui, j'ai choisi un autre domaine, mais en même temps, en restant vraiment émerveillé par cette convergence de talents qui, je n'ai aucun mérite dans ce domaine, je suis né dans cette famille, c'est un hasard heureux. J'en suis très content, mais en même temps, je n'ai jamais considéré que c'était c'est certainement un privilège, mais je n'ai pas considéré que ça m'apportait quoi que ce soit. J'avais ma vie à faire, j'avais tout approuvé. Voilà, donc en écrivant ce livre, je n'ai pas voulu, faire une démonstration des gloires de ma famille. J'ai pas voulu, c'est pas par vanité. C'était simplement, je trouvais ça intéressant de voir un moment de l'histoire de l'art vraiment extrêmement riche dans une même famille. Et d'ailleurs, ça a donné naissance à un autre livre, À l'ombre de la lumière, a donné un autre livre qui s'appelle Une famille dans l'impressionnisme, oui, chez Gallimard, qui était là, lui, illustré. Et ça a donné naissance à une exposition au Musée de la vue romantique.
Oui.
Il y a Une famille dans l'impressionnisme qui, justement, a attiré énormément de gens, parce que les gens ont compris à quel point, si vous voulez, cette famille avait été un moment important, si vous voulez, de rencontre, bizarrement, parce que c'est très rare que autant de génies se rencontrent dans la même famille. Et donc, ça a eu un grand succès parce que ça a permis d'éclairer l'impressionnisme d'une manière familiale, de l'intérieur.
Privé, voilà. Un regard privé.
Je peux vous dire que, de ce point de vue-là, il y avait une passion pour l'art, mais en même temps, Nous, enfants, avec mes cousins, dans l'appartement de Julie, nous jouions aux fléchettes et aux pistolets à plomb, et au milieu des tableaux de Manet, des tableaux de Renoir, et de temps en temps, il y avait une fléchette qui aboutissait sur un Renoir ou sur un Degas. Il y a même un jour un bouchon de champagne qui a complètement fait un trou dans le très beau portrait de Berthe Morisot par Manet.
Avec le petit bouquet de violettes.
Voilà, le bouquet de violettes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait une ambiance qui était très éloignée de cette espèce de révérence.
Oui, ce n'était pas de la componction du tout.
Voilà, il n'y avait aucune componction. On vivait vraiment d'une façon extraordinaire au milieu de chefs-d'œuvre, parce qu'il y avait quand même 10 Manets chez Julie, des instruments de musique de Chardin, il y avait des Monet, il y avait des Renoir. Donc c'était formidable de pouvoir vivre dans la beauté sans vivre dans l'angoisse que les tableaux soient volés, ou sans l'angoisse de l'argent. Finalement, oui. C'était ça. C'était un monde, là, je tiens à le dire, qui avait comme privilège à la fois d'avoir été au contact de l'élévation du génie, et en même temps de ne pas être tombé dans le piège maudit de l'argent.
Oui, c'était la suprême élégance. Très bien, merci beaucoup.
Merci.